Jérôme Heurtaud, bonjour.
Bonjour.
En 1989, la Pologne est la première révolution électorale de l'ancien bloc communiste et devient un modèle de transition pacifique. Dans Pologne 1989, comment le communisme s'est effondré? Vous décryptez donc le processus qui va conduire à la chute du pouvoir communiste. Un processus en deux temps, une table ronde entre le pouvoir et l'opposition, puis des élections législatives en juin 1989. Et vous écrivez qu'en fait, personne n'avait anticipé cette bascule historique, ni le pouvoir qui cherchait à garder la main, ni Solidarnosc. Alors comment une opération de sauvetage du régime communiste, organisée par ce même régime, a-t-elle pu devenir l'outil de sa perte ?
Écoutez, le récit, vous avez parlé de modèle tout à l'heure, le récit qui s'est imposé depuis 89 est un récit qui lisse l'histoire, qui considère qu'au fond, les acteurs qui étaient impliqués avaient le projet de construire une démocratie, de mettre fin au régime communiste. Or, et c'est le propos du livre, en regardant très très précisément, vraiment à hauteur d'homme, les acteurs impliqués, en essayant d'analyser leurs interactions, on découvre qu'en fait, ce processus n'avait ni auteur, ni ligne directrice, ni finalité, et que c'est l'imbrication de l'ensemble de ces protagonistes qui ont produit le résultat final, que l'on connaît, c'est l'effondrement du communisme, et que personne, en tout cas à ce moment-là, ne pouvait anticiper.
Alors oui, vous parlez d'une série de micro-causalités, en partie invisibles. Alors, une micro-causalité ?
Oh ben écoutez, il y en a plusieurs, justement, dans cette histoire. Je vous donne juste un exemple, effectivement, qui me semble marquant. Après la table ronde qui a lieu donc entre février et avril 89, les modérés du Parti communiste et les modérés de l'opposition, c'est donc Solidarité, qui s'étaient réunis ensemble, signent des accords. Bon, parmi ces accords, il y avait l'idée de créer une seconde chambre et surtout d'organiser des élections. Il faut vraiment rappeler que pour Solidarność, participer à ces élections n'allait pas du tout de soi. C'était une concession qu'il faisait au pouvoir.
Parce qu'avant tout, eux, ils voulaient être reconnus en tant que syndicat.
Eux, ils voulaient être reconnus comme syndicat.
Et pas nécessairement avoir une vocation politique.
Bah, en fait,
c'est quelque chose qui va venir petit à petit dans les discussions.
C'est ça, parce qu'en fait, le pouvoir voulait les coopter de manière à partager avec eux les coûts politiques d'une réforme qu'il fallait mettre en œuvre, notamment économique. Solidarité se prépare aux élections. Le Parti communiste se prépare aux élections, mais de manière extrêmement différente.
Ah oui, c'est aux antipodes, et ce qu'on attend de l'un, c'est l'autre qui le fait. C'est-à-dire que Solidarnosc a quasiment une politique de parti unique, un seul candidat par circonscription, et c'est un peu hallucinant a posteriori, mais on se rend compte que le Parti communiste lui joue la pluralité, plusieurs candidats.
Exactement, donc il y a une sorte d'inversion des rôles et des résultats contre-intuitifs. Solidarité cherche à monopoliser l'offre politique, donc présente dans chaque circonscription un seul candidat qui bénéficie du soutien de tout l'appareil en reconstitution à cette époque-là de Solidarność. Et du côté du pouvoir, ils cherchent à effectivement réformer la manière de sélectionner leurs candidats.
Il faut être plus proche du peuple aussi, enfin tout ça. C'est...
Voilà, ils jouent un petit peu l'idée d'une transparence, d'une réforme du parti, tout en étant dans une forme de routine aussi, parce qu'ils ont l'habitude de faire des élections, ils les ont toujours gagnées, et ils se retrouvent totalement dépassés par la campagne extrêmement, offensive de Solidarność, qui conflictualise au maximum cette élection, alors que les accords de la table ronde disaient « on va organiser des élections, mais sans confrontation ». C'est une compétition, certes, mais c'est une compétition qui n'acceptera pas le conflit.
Et le pouvoir pensait aussi avoir tout verrouillé avec ses accords en s'octroyant 65% des sièges de la Diète.
Exactement. Et d'ailleurs, à la fin des élections, 65% des sièges reviennent au camp du pouvoir. Ils ont gagné numériquement, mais ils ont perdu politiquement parce que Solidarité, elle, dès le premier tour, a fait passer la quasi-totalité de ses candidats, tandis que le pouvoir a eu besoin d'un second tour pour pouvoir faire élire les siens.
Et une chose qu'on n'a pas à noter, c'est que Solidarité, par le processus, devient l'unique représentant de l'opposition dans ces élections. Elle n'a pas laissé de place à d'autres mouvements.
Voilà, ça c'est encore une page blanche. Ouais. Des choses qui évidemment n'apparaissent pas dans les récits un peu laudateurs qui magnifient le comportement héroïque de Solidarność. C'est qu'effectivement, depuis les négociations qui ont précédé la tenue de la table ronde jusqu'aux négociations de l'été qui suit les élections de juin, des négociations qui vont aboutir donc à la nomination d'un gouvernement non communiste, en tout cas dirigé par un représentant de Solidarité. Pendant toute cette période, Solidarité développe en fait une stratégie politique qui consiste à s'arroger le monopole de l'opposition au mépris de la pluralité en fait des acteurs dans ce camp de l'opposition. Il y avait des gens qui ne voulaient pas d'accord avec les communistes. Il y avait des partis politiques, par exemple nationalistes, qui refusaient toute forme de compromis, qui refusaient même les élections. Et ceux qui ont souhaité participer à ces élections ont été quand même très très largement disqualifiés par Solidarité.
Et c'est quelque chose qui reste encore 30 ans plus tard. Vous écrivez que la table ronde occupe une place centrale dans le récit mémoriel qui s'est depuis constitué. Pourtant, le PiS, le Parti conservateur au pouvoir, a fait de la destruction de ce mythe qui, pour certains, est un mythe fondateur, un de ses chevaux de bataille.
Exactement, en faisant oublier la participation des Kaczynski à ces négociations. Mais ça, c'est encore autre chose. Effectivement, l'une des raisons qui permet d'expliquer aujourd'hui toutes ces joutes mémorielles autour de 89, c'est précisément le fait qu'en 89, le compromis historique entre Solidarité et le pouvoir a mis de côté, en quelque sorte, des partis, des acteurs politiques, à la fois du côté du pouvoir, parce que tout le monde n'était pas d'accord pour suivre cette ligne réformatrice et négociatrice, mais aussi du côté de l'opposition. Et je trouve que c'est très important de revenir sur ces épisodes historiques en les traitant comme des objets historiques pour, en quelque sorte, distendre un petit peu les tensions mémorielles aujourd'hui qui n'ont plus grand-chose à faire de la réalité des faits historiques, en réalité. C'est-à-dire dans ces conflits mémoriels, dans ces instrumentalisations politiques de l'histoire, dans ce qu'on appelle en Pologne la politique historique, politika historyczna, qui est un des arguments centraux, en fait, de la politique du PiS, on oublie les faits. Et donc, il est important de revenir aux faits pour écrire une histoire qui est peut-être pas la vérité historique, mais qui est au moins vraisemblable et fondée surtout sur des éléments concrets, des archives, voilà, des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment revenir.
Merci Jérôme Heurtaux.
Merci à vous.